Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, ou bien de découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi, et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour chers auditeurs, c'est l'été, et avec l'été nous vous faisons redécouvrir Dino Buzzati, et particulièrement son livre de nouvelles « Le cas ». Hervé et Catherine y ont pioché une dizaine de nouvelles que nous vous proposons jusqu'à la fin août. Aujourd'hui, Douce nuit, où la douceur de vivre croise l'horreur, et une rediffusion de Pauvre petit garçon.
Douce nuit. Elle eut dans son sommeil un faible gémissement. À la tête de l'autre lit, assis sur le divan, il lisait à la lumière concentrée d'une petite lampe. Il leva les yeux. Elle eut un léger frémissement, secoua la tête comme pour se libérer de quelque chose, ouvrit les paupières et fixa l'homme avec une expression de stupeur, comme si elle le voyait pour la première fois. Et puis elle eut un léger sourire. « Qu'y a-t-il, chérie ?»
Rien, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une espèce d'angoisse, d'inquiétude.
Tu es un peu fatiguée du voyage, chaque fois c'est la même chose, et puis tu as un peu de fièvre, ne t'inquiète pas, demain ce sera passé.
Elle se tut pendant quelques secondes en le fixant toujours les yeux grands ouverts. Pour eux qui venaient de la ville, le silence de la vieille maison de campagne était vraiment exagéré. Un tel bloc hermétique de silence qu'il semblait qu'une attente y fût cachée, comme si les murs, les poutres, les meubles, tout retenait leur respiration. Et puis elle dit paisible, « Carlo, qu'y a-t-il dans le jardin ?»«
Dans le jardin ?»«
Carlo, je t'en prie, puisque tu es encore debout, est-ce que tu ne voudrais pas jeter un coup d'œil dehors ? J'ai comme la sensation que... »«
Qu'il y a quelqu'un.
» Quelle idée ! Qui veux-tu qu'il y ait dans le jardin en ce moment ? Les voleurs ? Et il rit. Ils ont mieux à faire, les voleurs, que de venir rôder autour de vieilles bicoques comme celle-ci. Oh, je t'en prie, Carlo, va jeter un coup d'œil.
Il se leva, ouvrit la fenêtre et les volets, regarda dehors et resta stupéfait.
Il y avait eu de l'orage l'après-midi et maintenant, dans une atmosphère d'une incroyable pureté, la lune sur son déclin éclairait de façon extraordinaire le jardin, immobile, désert et silencieux, parce que les grillons et les grenouilles faisaient justement partie du silence.
C'était un jardin très simple, une pelouse bien plane, avec une petite allée aux cailloux blancs qui formait un cercle et rayonnait dans différentes directions. Sur les côtés seulement, il y avait une bordure de fleurs, mais c'était quand même le jardin de son enfance, un morceau douloureux de sa vie, un symbole de la félicité perdue, et toujours dans les nuits de lune, il semblait lui parler avec des allusions passionnées et indéchiffrables. Au levant à contre-jour, et sombre par conséquent, se dressait une barrière de charme taillée en arche. Au sud, une haie basse de buis, au nord, l'escalier qui menait au potager, au couchant de la maison. Tout reposait de cette façon inspirée et merveilleuse avec laquelle la nature dort sous la lune et que personne n'est jamais parvenu à expliquer. Cependant, comme toujours, le spectacle de cette beauté expressive qu'on peut contempler, bien sûr, mais qu'on ne pourra jamais faire sienne, lui inspirait un découragement profond. « Carlo !» appela Maria de son lit, inquiète, en voyant qu'il restait immobile à regarder. « Qui est là ?» Il referma la fenêtre, laissant les volets ouverts, et il se retourna. « Personne, ma chérie. Il y a une lune formidable. Je n'ai jamais vu une semblable paix. » Il reprit son livre et retourna s'asseoir sur le divan. Il était 11h10. À ce moment précis, à l'extrémité sud-est du jardin, dans l'ombre projetée par les charmes, le couvercle d'une trappe dissimulée dans l'herbe commença à se soulever doucement par à-coups, se déplaçant de côté et libérant l'ouverture d'une étroite galerie qui se perdait sous terre. D'un bond, un être trapu et noirâtre en déboucha et se mit à courir frénétiquement en zigzag. Suspendu à une tige, un bébé sauterelle reposait, heureux, son tendre abdomen vert palpitait gracieusement au rythme de sa respiration. Les crochets de l'araignée noire se plongèrent avec rage dans le thorax et le déchirèrent. Le petit corps se contorsionna, détendant ses longues pattes postérieures une seule fois. Déjà, les horribles crocs avaient arraché la tête et maintenant ils fouillaient dans le ventre. Des morsures jaillit le suc abdominal que l'assassin se mit à lécher avidement. Tout à la volupté démoniaque de son repas, il n'aperçut pas à temps une gigantesque silhouette sombre qui s'approchait de lui par derrière. Serrant encore sa victime entre ses pattes, l'araignée noire disparut à jamais entre les mâchoires du crapaud. Mais tout dans le jardin était poésie et calme divin. Une seringue empoisonnée s'enfonça dans la pulpe tendre d'un escargot qui s'acheminait vers le jardin potager. Il réussit à parcourir encore 2 centimètres avec la tête qui lui tournait, puis il s'aperçut que son pied ne lui obussait plus, et il comprit qu'il était perdu. Bien que sa conscience fût obscurcie, il sentit les mandibules de la larve assaillante qui déchiquetait furieusement des morceaux de sa chair, creusant d'atroces cavernes dans son beau corps gras et élastique dont il était si fier. Dans la dernière palpitation de son ignominieuse agonie, il eut encore le temps de remarquer avec une lueur de réconfort que la larve maudite avait été harponnée par une araignée loup et lacérait en un éclair. Un peu plus loin, tendre idylle. Avec sa lanterne allumée par intermittence au maximum, une luciole tournoyait autour de la lumière fixe d'une appétissante petite femelle, languissamment étendue sur une feuille. Oui ou non ? Oui ou non ? Il s'approcha d'elle, tenta une caresse, elle le laissa faire. L'orgasme de l'amour lui fit oublier à quel point un prêt pouvait être infernal une nuit de lune. Au moment même où il embrassait sa compagne, un scarabée doré d'un seul coup l'éventra irrévocablement, le fendant de bout en bout. Son petit fanal continuait à palpiter implorant. Oui ou non ? Que son assaillant l'avait déjà à moitié englouti. À ce moment-là, il y eut un tumulte sauvage à 1/2 mètre de distance à peine, mais tout se régla en quelques secondes. Quelque chose d'énorme et de doux tomba comme la foudre d'en haut. Le crapaud sentit un souffle fatal dans son dos. Il chercha à se retourner, mais il se balançait déjà dans l'air entre les serres d'un vieux hibou. En regardant, on ne voyait rien. Tout dans le jardin était poésie et divine tranquillité. La kermesse de la mort avait commencé au crépuscule. Maintenant, elle était au paroxysme de la frénésie. Et elle continuerait jusqu'à l'aube. Partout, ce n'était que massacre, supplice, tuerie. Des scalpels défonçaient des crânes, des crochets brisaient des jambes, fouillés dans les viscères, des tenailles soulevaient les écailles, des poinçons s'enfonçaient, des dents trituraient, des aiguilles inoculaient des poisons et des anesthésiques. Des filets emprisonnés, des sucs érosifs liquéfiés des esclaves encore vivants. Depuis les minuscules habitants des mousses, les rotifères, les tardigrades, les amibes, les técamibes, jusqu'aux larves, aux araignées, aux scarabées, aux mille pattes, oui, jusqu'aux orvées, aux scorpions, aux crapauds, aux taupes, aux hiboux, l'armée sans fin des assassins de grand chemin se déchaînait dans le carnage, tuant, torturant, déchirant, éventrant, dévorant, comme si dans une grande ville, chaque nuit, des dizaines de milliers de malandrins assoiffés de sang et armés jusqu'aux dents sortaient de leurs tanières, pénétraient dans les maisons et égorgeaient les gens pendant leur sommeil. Là-bas, dans le fond, le carouseau des grillons vient de se taire à l'improviste, gobé méchamment par une taupe. Près de la haie, la petite lampe de la luciole broyée par la dent d'un scarabée s'éteint. Le chant de la rainette, étouffé par une couleuvre, devient un sanglot. Et le petit papillon ne revient plus battre contre les vitres de la fenêtre éclairée, les ailes douloureusement froissées. Il se contorsionne, prisonnier dans l'estomac d'une chauve-souris. Terreur, angoisse, déchirement, agonie, mort pour mille et mille autres créatures de Dieu, voilà ce qu'est le sommeil nocturne d'un jardin de 30 mètres sur 20. Et c'est la même chose dans la campagne environnante, et c'est toujours la même chose au-delà des montagnes aux reflets vitreux sous la lune, pâle et mystérieuse. Et dans le monde entier, c'est la même chose, partout. À peine descend la nuit, extermination, anéantissement et carnage. Et quand la nuit se dissipe et que le soleil apparaît, un autre carnage commence, avec d'autres assassins de grands chemins, mais d'une égale férocité. Il en a toujours été ainsi depuis l'origine des temps et il en sera de même pendant des siècles, jusqu'à la fin du monde. Maria s'agite dans son lit avec de petits grognements incompréhensibles. Et puis de nouveau, elle écarquille les yeux épouvantés. « Ah, oh, Carlo, si tu savais quel terrible cauchemar je viens de faire! J'ai rêvé que là, dehors, dans le jardin, on était en train d'assassiner quelqu'un !»« Allons, tranquillise-toi un peu, ma chérie. Je vais venir me coucher, moi aussi. »« Carlo, ne te moque pas de moi, mais j'ai encore cette étrange sensation. Je sais pas, moi, c'est comme si dehors, dans le jardin, il se passait quelque chose. »« Mais qu'est-ce que tu vas penser, là ?» Oh, mais ne me dis pas non, Carlo, je t'en prie, je voudrais tant que tu donnes un coup d'œil dehors. » Il secoue la tête et sourit, il se lève, ouvre la fenêtre et regarde. Le monde repose dans une immense quiétude, inondé par la lumière de la lune. Encore cette sensation d'enchantement, encore cette mystérieuse langueur. Dors tranquille, mon amour, il n'y a pas âme qui vive dehors. Je n'ai jamais vu une telle paix.
Family. sure to talk. 1, 2, 3, swallow the key. In their footprints, I will follow. I'm gonna hit your business if it's fall with savvy business. I'm gonna hit your business if it's fall with savvy business. I'm gonna hit your business if it's fall with savvy business. I'm gonna hit your business if it's fall with savvy business.
Pauvre petit garçon. Comme d'habitude, Madame Clara emmena son petit garçon, 5 ans, au jardin public au bord du fleuve. Il était environ 3 heures, la saison n'était ni belle ni mauvaise. Le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps à autre porté par le fleuve. On ne pouvait pas dire non plus que cet enfant qu'il était beau. Au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert. Au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient « laitue ». Mais d'habitude, les enfants au teint pâle ont en compensation d'immenses yeux noirs qui illuminent leur visage exsangue et lui donnent une expression pathétique. Mais ce n'était pas le cas de Dolphy. Il avait des petits yeux insignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité. Ce jour-là, le bambin, surnommé Laitue, avait un fusil tout neuf qui tirait même des petites cartouches, inoffensives bien sûr, mais c'était quand même un fusil. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants, car d'ordinaire, il le tracassait. Alors il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer. Parce que les animaux qui ignorent la souffrance de la solitude sont capables de s'amuser tout seuls, mais l'homme, au contraire, n'y arrive pas et qu'il tente de le faire, bien vite, une angoisse encore plus forte s'empare de lui. Pourtant, quand les autres gamins passaient devant lui, Dolphy épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire « Tiens, tu vois, moi aussi, aujourd'hui, j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ?» Les autres enfants, éparpillés dans l'allée, remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy. C'était un jouet de 4 sous, mais il était flambant neuf, et puis il était différent des leurs, et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit « Et vous autres, vous avez vu la laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ?» Un autre dit « Oui, la laitue a apporté un fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer, mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, il ne sait même pas jouer tout seul. La laitue, c'est un cochon, et puis son fusil, c'est de la camelote. » « Il ne joue pas parce qu'il a peur de nous, » dit un troisième. Et celui qui avait parlé avant, « Peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant. » Madame Clara était assise sur un banc occupée à tricoter et le soleil la nimbait d'un halo. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle. Il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. Il était environ 3 heures et dans les arbres de nombreux oiseaux inconnus faisaient un tapage invraisemblable. Signe peut-être que le crépuscule approchait. « Allons, Dolphy, va jouer !» l'encourageait Madame Clara sans lever les yeux de son travail. « Mais jouer avec qui ? Mais avec les autres petits garçons, voyons ! Vous êtes tous amis, non ? Non, on n'est pas amis, disait Dolphy. Quand je vais jouer, ils se moquent de moi. « Oh, tu dis ça parce qu'ils t'appellent la laitue ? Je veux pas qu'ils m'appellent la laitue. Pourtant, moi, je trouve que c'est un joli nom. À ta place, je ne me fâcherais pas pour si peu. » Mais lui, obstiné, « Je veux pas qu'on m'appelle la laitue !» Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre, et ce jour-là aussi. Dolphy avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt il l'avait appelé « laitue » et il s'était mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui, au contraire, était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes. Lui, au contraire, avait des vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins. Lui, avec la meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques, et ils n'osaient pas les répéter. Ils étaient forts, et lui si faible. Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabule, les autres garçons s'approchèrent. « T'as un beau fusil !» dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. « Fais voir !» Dolphy, sans le lâcher, laissa l'autre l'examiner. « Pas mal !» reconnut Max avec l'autorité d'un expert. Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins 20 fois plus que le fusil. Dolphy en fut très flatté. « Avec ce fusil, toi aussi, tu peux faire la guerre, » dit Walter en baissant les paupières avec condescendance. « Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine, » dit un troisième. Et Dolphy les regardait émerveillés. Il ne l'avait pas encore appelé la laitue. Il commença à s'enhardir. Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là. Il y avait l'armée du général Max qui occupait la montagne et il y avait l'armée du général Walter qui tenterait de forcer le passage. Les montagnes étaient en réalité deux talus herbeux recouverts de buissons et le passage était constitué par une petite allée en pente. Dolphy fut affecté à l'armée de Walter avec le grade de capitaine. Et puis les deux formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille. Pour la première fois, Dolphy se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commanderait l'avant-garde, ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois, armés de frondes, et ils l'expédièrent en tête de l'armée avec l'ordre de sonder le passage. Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse, d'une façon presque excessive. Alors, Dolphy se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide. Des deux côtés, la rive herbeuse avec leurs buissons, il était clair que les ennemis, commandés par Max, avaient dû tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n'apercevait rien de suspect. Et capitaine Dolphy part immédiatement à l'attaque. Les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais. Dolphy se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il. « Allons, capitaine, à l'attaque !» intima le général. Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolphy, qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire. « à l'attaque, les enfants » cria-t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales. Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup, il sentit son pied retenu. À 10 centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle. Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever, mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétries avec de l'eau. Un de ses projectiles le frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent, même Walter, son général, même ses compagnons d'armes. « Tiens, attrape, capitaine Laitue !» Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient. Le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés, il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon. Il ne pouvait plus servir à rien. Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couverts de terre, de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée. « Mon Dieu, Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère. Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin ? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin ? Pourquoi Dolphy restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle ? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et reconduire par le bout du nez ? Elle essaya d'imaginer son fils dans 15 ou 20 ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, en donnant le bras à une superbe jeune fille, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis, un porte-plume à la main, avec des grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne, il serait toujours un pauvre diable vaincu par la vie. Oh, le pauvre petit ! S'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Madame Clara. En secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux, reconnaissant. Il essaya de sourire et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute la mère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée et sans défense. Le désir désespéré d'un peu de consolation. Un sentiment pur, douloureux et très beau qu'il était impossible de définir. Pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Mais ce ne fut qu'un instant. « Allons, Dolphy, viens de changer !» fit la mère en colère et elle le traîna énergiquement à la maison. Alors le bambin se remit à sangloter, à cœur fendre. Son visage devint subitement laid, un rictus sur lui, plissa sa bouche. « Oh, ces enfants, quelles histoires! Ils font pour rien du tout !» s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. « Allons, au revoir, Madame Hitler !»
J'ai l'envie de bailler.
C'était la dernière séquence.
C'était la dernière séance.
Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin.
Je connais le destin d'un cinéma de quartier.
Il finira en garage, en building supermarché.
Oh, il n'a plus aucune chance.
C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran. Bye bye, les héros.
mes chocolats glacés. Glacé. J'allais rue des solitaires à l'école de mon quartier.
À 5 heures j'étais sorti,
mon père venait me chercher.
On voyait Gary Cooper
qui défendait le primaire.
C'est vraiment bien l'enfance,
mais c'est la dernière séquence.
Et le rideau sur l'écran est tombé.
Bye bye, les filles qui tremblaient.
Pour les jeunes premiers.
Chocolat glacé, glacé. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer.
Mon voisin détend ses bras,
il s'en va boire un café.
C'était sa dernière séquence.
C'était sa dernière séance.
Et le rideau sur l'écran est tombé.
Vous venez d'écouter Douce Nuit et Pauvre Petit Garçon, deux nouvelles tirées du cas de Dino Buzzati. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux nouvelles lectures de deux autres nouvelles tirées toujours du même livre. À bientôt.